Bonjour à toutes et à tous. Je suis Elena Biserna, directrice artistique du Lab Gamers. On vient d'écouter quelques sons qui nous sont proposés par l'artiste Cécile Babiol, qui est maintenant en résidence dans notre structure et aussi ici avec nous. Ce sont des sons qui viennent d'un travail sur les tissages, sur les liens entre tissage et informatique dont elle va nous parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre. C'est 14h49, on est dans les studios de Radio Zaï à Aix-en-Provence et on a été invité ici par Graham. L'occasion d'être ici est aussi le fait qu'on a un artiste en résidence ici, il s'appelle Nicolas Montgermont et il est en train de faire un atelier justement intitulé Ondes et Radio juste à l'étage en bas. Et vu qu'on est là, je veux bien vous présenter les personnes qui sont avec moi autour de la table. Donc, à ma droite, Grégoire Levent, directeur du laboratoire de LabGamers et directeur technique de l'asso. Magdalene Groff, administratrice de LabGamers. Et je vous ai déjà annoncé Cécile Babiol, notre artiste en résidence pour toute l'année 2023.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Donc le Lab Gamers, c'est une donc pour vous présenter brièvement l'association et notre activité. Nous sommes une association aixoise qui est installée au patio du Bois de l'Aune, au Geste de Bouffant. Donc nous sommes une association qui est dédiée aux pratiques artistiques interdisciplinaires et multimédia. Alors l'association agit autour de trois axes. D'abord la production et la recherche avec un programme d'accueil en résidence d'artistes au sein de notre laboratoire et dans des lieux partenaires. Ensuite, nous avons un programme de diffusion avec des événements, expositions et un festival sur le territoire aixois et en région tout au long de l'année. Et ensuite, donc, le troisième axe d'action, c'est la transmission des savoirs et des savoir-faire auprès des publics, donc autour des pratiques transmédia et interdisciplinaires.
Mais il s'agit d'une asso qui a une longue histoire et Grégoire Levent qui est le plus ancien entre nous. On peut dire ça, Grégoire ?
On peut dire ça. En fait, je fréquente la structure depuis 2009 et j'en fais officiellement partie depuis 2021. Mais je connais aussi ses fondateurs, car j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence avec eux, parce que le Lab Gamers est une association qui a été créée en 2003. Elle s'appelait avant M2F Création. Et donc c'est un projet qui vient de cette école, avec, de la part de ses étudiants, qui étaient Sylvain Huguet, Quentin Destieux et Romain Sénator, la volonté de pouvoir créer une structure pour diffuser leur travail et le travail d'autres artistes autour de thématiques qui tournaient autour des relations entre art et technologie. L'association s'est surtout illustrée dans la région d'Aix-en-Provence avec le festival Gamers, qui a connu une quinzaine d'éditions entre 2006 et 2019, si je me souviens bien. Puis, Quentin Destieux et Sylvain Huguet ayant quitté la structure, ils ont été remplacés par Paul Destieux et Luce Moreau à la direction artistique, qui ont mené les activités de l'association pendant 2 ans. Jusqu'à cet automne 2019, où Elena Biserna nous a rejoint à la direction artistique.
Ça fait juste deux mois que je suis là. Et en effet, aujourd'hui, l'association s'ouvre aussi sur d'autres pratiques et opère pour les décloisonnements des disciplines et la circulation des savoirs entre les arts et plusieurs domaines de recherche et d'action. Et les projets de Cécile Babiol, qui a débuté, qui a commencé sa résidence bien avant que j'arrive, est déjà en fait un exemple assez intéressant de ces croisements entre différents savoirs, entre différentes disciplines, entre différentes pratiques. Je vous présente en quelques mots Cécile Babiol, qui est une artiste qui est active depuis les années 80, dans les champs musicaux d'abord, mais puis dans les arts électroniques et numériques, et je dirais plus largement en fait dans la culture contemporaine, avec un ancrage très fort en fait dans les pratiques et les théories féministes qu'elle défend passionnément. C'est pas ça?
Si.
C'est vrai?
Si.
Et elle associe souvent dans son travail un travail plastique, un travail visuel avec un travail sonore. L'écoute est souvent très importante en fait dans ses projets. Et à Lab Gamers, elle développe un projet de recherche. En fait, c'est un des exemples des résidences de longue durée que l'association peut accompagner. Un projet qui est basé sur une vraie recherche qui est à la fois technologique et théorique autour du tissage et de la matière du tissage, des pratiques du tissage à partir de l'ancien temps, à partir de la préhistoire. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de... Oui. Loops of the Loom.
Voilà, alors, le titre du projet c'est Loops of the Loom, qui veut dire mot à mot les boucles du métier à tisser. Et ça se réfère aussi bien au tissage donc, qu'à l'informatique, puisque le tissage est une activité, on va dire, algorithmique. Enfin, c'est basé sur l'algorithmie, puisque tout tissage consiste à entrecroiser des fils selon un certain ordre, dessus, dessous, d'une manière qu'on peut appeler algorithmique, puisque c'est une espèce de schéma qui détermine la nature du tissu qu'on est en train de tisser. Il se trouve que c'est une technologie très très ancienne qui a été inventée, on pense, avant le néolithique, hein, enfin, vraiment dans la préhistoire profonde à l'époque où les humains étaient nomades et où forcément, comme ils étaient nomades, il fallait qu'ils puissent transporter leurs affaires. Ils n'avaient pas beaucoup d'affaires à transporter, ils avaient quelques outils, pour des couteaux de pierre, ils avaient des bébés aussi à transporter. Et donc les premiers tissages, c'était en fait des sacs pour transporter ces petites affaires. Quand on est nomade, on en a besoin. Et ils étaient faits au départ en fibres, des fibres de tiges, des fibres tirées de ce qu'il y a sous l'écorce des arbres. Et on en a retrouvé des traces dans différentes contrées dans le monde, aussi bien en Amérique du Sud, où il y a un climat désertique très sec qui conserve les artefacts très bien, mais aussi même en Europe, en Suisse, où il y avait des cités lacustres. Ça, c'est un peu plus tardif, c'est plus vers le néolithique, et qui se sont transformés en tourbières. Et ça conserve très, très bien aussi certains éléments comme ça, tissés, qu'on a retrouvés. Donc, ça remonte très loin. Et il semblerait bien que cette invention, c'était le fait des femmes. Parce que, il y a tout un tas de chercheurs qui se sont interrogés sur la question, mais il semble quand même bien que l'association entre les femmes et les plantes, elle a toujours été très forte, que ce soit les plantes pour se nourrir, les plantes médicinales pour se soigner, et les plantes aussi bien pour tisser. Et donc, on pense que très vraisemblablement, c'est une technologie... inventée par des femmes. Et quand on regarde beaucoup plus tardivement, non plus à la préhistoire, mais dans l'Antiquité, la plupart des représentations, que ce soit en Égypte ancienne, en Grèce, représentent des femmes avec des métiers à tisser. Donc, le métier à tisser donc, a une très longue histoire, hein, depuis le métier le plus rudimentaire qui est fait que de quelques... un cadre et des perches en bois. Et ça va jusqu'au métier mécanisé, jusqu'alors là je saute dans le temps très, très fortement et j'arrive au 19e siècle, au début du 19e siècle où il y a un certain monsieur Jacquard qui a inventé le métier à tisser. Jacquard fait avec des cartes perforées qui permettaient de relever les fils quand on fait un motif très complexe. C'est plus facile d'être aidé et qu'il y ait des fils qui puissent être relevés pour passer les fils de trame plus facilement, et ces métiers jacquard comportaient des cartes perforées qui étaient en bois, c'était des grosses cartes en bois. Voilà, et la carte perforée, elle a été utilisée ailleurs que dans le domaine du textile, dans le domaine du calcul, dans la banque, etc. C'est devenu les ateliers de mécanographie à carte perforée qui sont les ancêtres directs de l'ordinateur. Alors tout ça pour dire donc que le tissage, c'est une technologie inventée par les femmes qui demande de savoir compter. Ce qui veut dire que les femmes, dès la préhistoire, elles savaient compter, elles avaient des notions scientifiques, même si c'était de manière intuitive, et que le tissage, c'est le métier à tisser est l'ancêtre lointain de l'ordinateur. Et que donc, l'outissage, et comme toutes les activités textiles, ce n'est pas une activité méprisable, un truc de bonne femme, mais c'est une vraie technologie au même titre que les technologies inventées par les hommes.
Oui, et voilà. En même temps, c'est un savoir et un savoir-faire qui a été longtemps réduit à un savoir décoratif, un savoir anecdotique, pas très important.
Ben comme la plupart des technologies qui concernent les femmes, on ne leur donne pas la noblesse de vraies technologies. Et voilà, alors, donc là, je me suis intéressée à ça et surtout j'ai regardé aussi comment l'algorithmique présente dans le tissage qu'on voit dans les schémas graphiques, ce qu'on appelle les armures, c'est-à-dire les armures, c'est l'algorithme qui définit un tissage. Comment ça pouvait ressembler à des partitions rythmiques, parce que je fais du son aussi. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire donc du tissage sonore, c'est-à-dire des pièces un peu tautologiques qui se renvoient à elles-mêmes, où je vais faire un tissage. Et je décide que le tissage, c'est comme une partition, et je lis la partition, c'est-à-dire je lis si les fils sont dessus, dessous, s'ils sont rouges, verts, bleus, de telle ou telle couleur. J'attribue à ces paramètres des notes et des instruments, et ça fait du son. Voilà. Et je tisse non pas avec du fil de coton ou de laine, mais je tisse avec du câble audio. Et donc, le câble audio, ça conduit le son. Donc, ces tissages, ils vont être traversés par des flux de signal sonore, hein, comme si ces tissages étaient habités comme ça d'électrons, et ils produisent du son. Et donc, bien sûr, je mets des petits haut-parleurs au bout des fils. Donc, les pièces, elles sont comme ça, ce sont des tissages qui font du son et qui disent le tissage. C'est-à-dire qu'en fait, le son désigne le motif tissé et les motifs tissés font du son. Donc voilà, c'est un peu en boucle.
Loops of the Loom, Cécile Babiol tisse chez nous, chez la BMS, au patio du Bois de l'Aune, dans nos ateliers depuis janvier 2023.
Oui, longuement, parce que j'utilise un système extrêmement rudimentaire. Je suis un peu comme les femmes de la préhistoire, je tisse avec un truc pas du tout, du tout. Pas du tout sophistiqué, donc c'est très très long, mais j'adore avoir une activité comme ça, lente et longue, qui me permet de réfléchir, d'écouter des podcasts, de faire plein d'autres choses en même temps, et c'est très agréable.
Et c'est un métier à tisser qui a en fait a été prototypé au sein du laboratoire avec l'aide de Grégoire Levent.
Voilà. Grégoire, tu veux raconter ce que tu as fabriqué?
Oui, en fait, de façon assez simple, les fils qu'utilise Cécile ne sont pas souples du tout. C'est des fils, c'est des câbles audio qui sont absolument pas faits pour ça. Et un métier à tisser, ça fonctionne avec des fils qui sont un tout petit peu souples, qui permettent de détendre la matière et de s'adapter au fur et à mesure qu'on en rajoute quand on réalise le tissage. Dans le cas de Cécile, ça ne marchait pas. Donc on a été obligé d'inventer une solution pour rendre possible ce projet. Et après avoir beaucoup réfléchi pendant très longtemps, fait des croquis, finalement, ce qui nous a mis sur la piste, c'est un petit appareil de chirurgie qui sert à ligaturer des artères, qui marche avec une vis qui s'appelle un clamp de Hoffman, qui nous a servi de modèle mécanique et géométrique pour fabriquer ce métier à tisser qui s'adapte au fur et à mesure du tissage. Donc on a réalisé un prototype, petite échelle, un moyen. Et maintenant, Cécile en est rendue à des formats qui sont assez grands, je suppose,
oui,
sur un mètre et quelques.
Plus d'un mètre, un mètre par 65. Voilà. De double format raisin. Format double raisin. Je
format double dire. Raisin. Oui, on reste sur des ratios qui sont proches de l'histoire de l'art.
C'est jamais exact parce qu'en fonction du point que je fais, c'est plus ou moins serré et tout. Les pièces, elles font 5 cm de plus ou de moins.
Voilà. Il faut combien de temps en moyenne pour réaliser un de ces grands formats?
Il me faut un mois sans la conception des motifs.
Et entre-temps, en fait, peut-être je vous laisse juste en mentionnant l'autre artiste en résidence avec nous, Nicolas Montgermand, qui travaille, comme je disais au début, je l'ai mentionné au début, il est juste à l'étage en bas, en train de guider un atelier à la découverte des ondes radiophoniques à Aix-en-Provence. Et on va les retrouver dans les studios de Radio Zaï, donc dans ces mêmes studios où on est là en ce moment, moi, Grégoire, Cécile et Magdalene. Et il va être ici vendredi pour enregistrer une émission collective avec toutes les participantes et les participants à son atelier de création radiophonique et d'exploration des champs électromagnétiques. Pour une émission qui sera transmise en direct sur Pinode Radio, un réseau radiophonique en DAB+, et en numérique basé entre Paris et Mulhouse, et une émission qui sera bien évidemment aussi à l'écoute sur Radio Zaï.
Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet lab-gamers.com.
Et à très vite.